Henri de Régnier, La double maîtresse, troisième partie, chapitre 14. Quand les voitures arrivèrent à l'auberge de Frascati, M. Tobaïzon et Olympia descendirent de la leur dans un état de désordre qui laissait peu de doute sur la façon dont ils avaient employé les longueurs de la route. Olympia se rajusta de son mieux. L'Anglais redressa sa perruque à rouleaux, s'étira dans son vaste habit rouge et fit claquer sa langue. Angiolino manifesta aussitôt l'intention de faire une promenade aux villas. Il y en a de fort belles à Frascati, et en particulier la Belvédère et la Mondragone, qui sont célèbres par la beauté de leurs ombrages, l'agrément de leurs jardins et l'abondance de leurs eaux. Angiolino se prétendait un vif goût pour les artifices et les jeux hydrauliques. Il le tenait d'enfance à avoir fréquenté en ses vagabondages les fontaines de Rome. Il avait bu leurs ondes, regardé leurs nappes et leurs gerbes barbotées dans leurs bassins. Toutes lui étaient familières par quelques souvenirs. Il lui plaisait fort de revoir celles de Frascati. Elles avaient assisté à sa naissante fortune. Il les avait visitées jadis avec ce monsieur de la Terroise, gentilhomme français qui remarqua ses mérites, le tira du commun et fit honneur à sa jolie figure. Ce riche et généreux seigneur, sa fantaisie passée, laissa le jeune garçon les poches pourvues et des bagues de prix à tous les doigts et en état de se présenter décemment au cardinal Lamparelli. La proposition champêtre d'Angiolino fut loin d'agréer à M. Tobaïzon, qui ne montra nulle disposition à visiter des curiosités auxquelles il se sentait fort indifférent, car il avait une façon assez particulière de voyager. Sauf le vin et les femmes qu'il pouvait fournir, il se préoccupait assez peu des pays qu'il traversait. Aussi passait-il volontiers ses journées à l'auberge. Il recevait les joailliers de l'endroit, car il était grand amateur de pierres et de bijoux, et c'était merveille de le voir toucher les plus fragiles et les plus délicates de ses fortes mains de boucher et d'assommeur. Partout, il achetait les plus belles pièces et les envoyait à Londres, à sa femme, qu'il ne voyait jamais, et qui vivait nabote et contrefaite, parée comme une chasse, tandis que son gigantesque mari courait le monde en troussant les filles et en vidant les bouteilles. Au gré de M. Tobaïzon, on se mit donc à table et les lampées commencèrent. Les rasades suivirent qui menèrent la compagnie assez tard dans l'après-midi. Enfin, après une dernière buverie, M. Tobaïzon déclara qu'il allait partir et ordonna qu'on attelât sa chaise de poste. Angiolino et Olympia sortirent pour hâter ses ordres et il se trouva seul à table en face de M. de Galando. M. de Galando était assis silencieusement, les yeux fixés au fond de son assiette, quand un coup de poing que donna sur la nappe M. Tobaïzon le fit sursauter. Ce coup de poing annonçait que M. Tobaïzon allait parler. Il en faisait d'ordinaire précéder ses discours et le proportionnait à son humeur. Aussi, tantôt le choc faisait-il sauter les assiettes, tantôt teinter agréablement la verrerie. M. de Galando, la tête levée, écoutait déjà. M. Tobaïzon de Tottenwood parla ainsi. Au dehors, on entendait les palefreniers atteler les chevaux avec un bruit d'ébrouement de sabots et de clochettes. Si vous étiez né, monsieur, dans un des vers comtés de notre joyeuse Angleterre, savez-vous bien, monsieur, ce que je ferais? Je vous prendrais le plus doucement du monde par le collet et je vous déposerais sur la banquette de ma voiture. Je m'y assoirais à côté de vous et je dirais au cocher de fouetter les chevaux et au galop postillon. Monsieur Tobaïzon de Tottenwood respira profondément. Monsieur de Galando courbait la nuque et rentrait la tête dans ses épaules. Il se voyait déjà dans les airs, suspendu au point puissant de l'original. Malheureusement pour vous, monsieur, vous n'avez pas l'honneur d'être anglais. Et d'autre part, je n'ai pas celui de vous connaître assez pour pouvoir agir avec vous sans votre consentement et vous appliquer un traitement que vous seriez peut-être en humeur et en droit de me reprocher, car chacun est libre de vivre à sa guise et chacun doit rester maître de sa fantaisie. La vôtre, monsieur le Français, est d'être ridicule. Cela est familier à votre nation et je ne m'en étonne pas. Pardonnez-moi ma franchise, monsieur, mais elle vient à vous voir ainsi le jouet d'un drôle et d'une drôlesse qui vous dépouille, vous berne et se moque de vous. C'est votre choix, donc je n'ai rien à y redire. J'ai cru pourtant, et vous m'en excuserez sans doute, ne point devoir souffrir qu'en ma présence et à ma vue, on traita de la sorte un gentilhomme de votre état et de votre âge. Voilà tout. J'ai fait cela pour moi et non pour vous, car il ne m'était pas agréable de savoir que les souliers avec lesquels je marchais avaient été tirés par un homme de condition, transformé en maraud. Nous autres Anglais, nous respectons dans l'homme sa nature et sa qualité, mais les gredins en question ne semblent guère se soucier de la vôtre. J'ai mis donc quelque arrêt à leur familiarité, mais soyez bien sûr qu'une fois que j'aurai le dos tourné, monsieur le comte, vous retomberez à l'office et que ni mes remontrances ni l'habit vert que vous portez ne vous en garantiront point. Monsieur de Galandot suivait attentivement le discours de l'Anglais. Monsieur Tobison le toisa, puis se mit à rire bruyamment, sa grosse figure rouge s'empourpra. Plus je vous regarde, monsieur, plus je remarque que vous n'avez rien de ce qu'il faut pour manier de pareils coquins. Si encore vous aviez des poings solides, de la taille et du nerf, je vous en enseignerais bien la manière. La leçon serait courte. Avec un bon coup de pied au cul à Angiolino et quelques larges soufflets au visage d'Olympia, vous en seriez quitte et vous les verriez doux comme des moutons. Mais, mon pauvre monsieur, les femmes et leurs ruffians ne sont point votre affaire, et ces deux-là sont de la pire espèce. Vous êtes dans un guépier dont vous ne sortirez pas et où il me peine de vous laisser. Foi de Thomas Tobison. Si encore vous tiriez quelque avantage de votre turpitude, je vous comprendrais mieux. Certes, cette Olympia est bonne à l'amour, mais vous ne le faites pas même avec elle. Elle sait les métiers du lit. Elle a la peau fraîche et les membres souples, encore que pour mon goût, elle ne donne pas ce qu'on pourrait en attendre. Mais cela vous importe peu, car l'usage que vous en faites n'est pas celui dont je parle, et vous êtes encore donc sa dupe d'une façon de plus. Monsieur de Galandot regarda Monsieur Tobison d'un air suppliant. Ce que je dis là, monsieur, n'est point pour vous fâcher. Chacun aime à sa façon, et la vôtre, pour bizarre qu'elle soit, ne m'en paraît pas moins respectable. Quoique, comme j'ai l'honneur de vous le dire, je ne la supporterai pas un instant de l'un de mes compatriotes. Libre à vous, donc, monsieur, de faire le passe-temps et le jeu de ces pendards. Mais pourtant, je ne veux point partir d'ici sans vous proposer quelque chose. Monsieur Tobison s'était levé. Il se dressa, énorme et rouge, en face de monsieur de Galandot, maigre et vert, qui avait imité son mouvement. La table les séparait. « Je pars, monsieur, » dit gravement Thomas Tobison. « Je vous emmène. Dans 3 jours, nous serons à Naples, et dans 1 mois en France. Je vous y conduirai. Laissez la vie absurde que vous menez ici, et où vous faites, je vous le répète, piteuse figure. Olympia et Angiolino en crèveront de dépit. Il n'y aura là pas grand mal, vous les avez suffisamment engraissés de vos dépouilles. Dites un mot et vous êtes libre. Réfléchissez. J'attends votre réponse. Le temps de me verser un verre de vin, c'est dit. » Monsieur Tobison s'était couvert et choisissait une bouteille. Il attira à lui un verre vide. Lentement, il inclina la panse de la fiasque. Un filet rouge tomba dans le cristal. Monsieur Tobison versait lentement en regardant du coin de son petit œil tendre et narquois Monsieur de Galandot. Monsieur de Galandot était de la pâleur d'une cire qui eût sué. De grosses gouttes lui coulaient du front. Il tremblait de tous ses membres. Ses dents claquaient. Monsieur Tobison reposa la bouteille. Le verre était plein jusqu'au bord. Il le leva. « Eh bien ?» dit Monsieur Thomas Tobison de Tottenwood. Monsieur de Galandot laissa retomber ses longues mains le long de son corps maigre et, par 3 fois, de la tête, fit signe que non en fermant les yeux. « À votre santé, monsieur de Galandot !» s'écria monsieur Tobison d'une voix de tonnerre, et il vida le verre d'un seul trait le coude haut. Sa figure était écarlate. Puis, ôtant son chapeau, il s'approcha de monsieur de Galandot et le salua profondément. « Nous autres, Anglais, monsieur, nous estimons les hommes qui vont jusqu'au bout de leurs devoirs, de leurs passions et de leurs fantaisies. C'est pourquoi, monsieur, je prétends vous admirer. Faire ce qu'on veut, tout est là. Ainsi, moi, monsieur, j'ai juré de ne pas revoir Londres tant que vivra Madame Tobaison que je déteste. Voici 20 ans que je m'ennuie par toute l'Europe, car il n'y a au monde qu'une seule chose qui me divertisse, monsieur, me promener par une petite pluie fine sur le pont de la Tamise. » Et Monsieur Tobaison, pirouettant sur ses larges talons, disparut brusquement par la porte ouverte. Au dehors, le fouet claqua. Les chevaux frappèrent le sol du sabot. Les essieux des roues grincèrent. Puis, le silence se fit, et Monsieur de Galando entendit la voix d'Olympia qui l'appelait. Il la trouva avec Angelino. Il paraissait joyeux et sournois et fort aise du départ de Monsieur Tobaison. Un mauvais sourire errait sur les lèvres du ruffian. Olympia ricanait. Il s'agissait maintenant d'employer la fin de l'après-midi à visiter les villas, celles d'abord qu'Olympia et Angelino voulaient acheter et dont ils comptaient bien soutirer le prix à Monsieur de Galando, et ensuite celles qui contiennent des singularités curieuses en bâtiments, parterres, grottes et jeux d'eau. La promenade fut gaie. Monsieur de Galando, plus courbé que de coutume, marchait derrière le couple, s'arrêtait avec eux et les suivait à pas traînants. Ils admirèrent ainsi la Mondragone, mais la Belvédère leur plut davantage. Les jardins y sont en terrasses couvertes de verdures et de cascades, la plus grande couronnée de colonnades à cannelures torses par lesquelles l'eau circule en spirale. Dans les grottes, ils s'étonnèrent devant le centaure qui sonne du cornet à bouquin et le faune qui joue de la flûte par les moyens de conduit qui fournissent l'air à ses instruments. Ils arrivèrent ainsi à une fort belle statue de Triton dans une niche de marbre. Olympia resta à l'écart, mais le naïf Monsieur de Galando en approcha sur l'invitation d'Angelino, qui passa derrière la statue dont il connaissait le secret et tourna le robinet, de telle sorte que Monsieur de Galando reçut en pleine figure un geste si violent que la force le jeta sur la dalle à la renverse. Tout étourdi du choc dont il se releva ruisselant, la perruque collée aux tempes, son habit vert laissant couler l'eau par toutes les coutures, à la grande joie des deux plaisants, ravis d'avoir emprunté à l'onde complaisante le soufflet humide de leur rancune contre l'involontaire protégé de M. Thomas Tobaison de Tottenwood.